mon seul leitmotiv, c'était de vivre au gré du vent.
Voyager en solo m'a enseigné que je suis très forte, très indépendante et très courageuse.
Mais au moins, je suis sortie de mon lit et au moins, je me suis déguisée en pastèque et j'ai osé me mettre sur le bord de la route et lever le pouce. Rien que ça, déjà, je peux me féliciter de l'avoir fait.
Je soutiens le voyage solo aussi. Je trouve que c'est une des expériences les plus libératrices pour apprendre à savoir qui on est. C'est pas une obligation. C'est quand même bien d'y passer pour apprendre qui vous êtes et en fait comment vous gérez tout seul.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur De Vraie Vie, le podcast des voyageuses qui osent. Je suis Anastasia DeSantis et toutes les deux semaines, je vous invite à prendre un siège pour écouter ma conversation avec une femme inspirante sur son parcours de vie, mêlant développement personnel et voyage. Et je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode bonus, qui est en fait l'enregistrement d'un événement que j'ai organisé le 4 mars dernier à Paris. Donc ça c'était quand on pouvait encore sortir et se réunir, même si j'ai vraiment l'impression que c'était il y a un siècle à peu près. Bref, c'était une rencontre absolument géniale, en plein cœur de Paris, avec donc 4 superbes invités. Et donc j'ai notamment eu l'honneur de recevoir Anastasia, Yojong, Abigail et Caroline. Donc je tiens sincèrement à les remercier encore toutes les 4 pour leur présence. Dans cet épisode, on va parler de comment le voyage a changé la vie de mes invités. Donc ce qui a poussé mes invités à partir voyager, ce que le voyage a changé dans leur vie. Et également la question du retour, puisque c'est une question dont on aborde assez peu souvent le sujet et que j'aime bien aborder, puisque c'est quand même un moment qui est très important et qui n'est pas toujours facile à vivre. Les événements De Vraie Vie, c'est vraiment l'occasion donc de participer à l'enregistrement d'un épisode de Vraie Vie en direct, mais c'est aussi un peu plus que ça. C'est aussi rencontrer d'autres femmes avec les mêmes rêves, espoirs, problématiques, envies. C'est pouvoir poser ses questions, pouvoir échanger avec les invités, avoir des tips sur son prochain voyage, sur son changement de vie. Mais c'est avant tout une rencontre, un soutien entre nous, pouvoir échanger avec des personnes qui se comprennent, ce qui n'arrive pas forcément dans son cercle familial ou amical en tout cas. Donc si ça vous intéresse de participer au prochain apéro, n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter pour donc en être informé en avant-première. Et le lien est dans la description de cet épisode. Je vous laisse à présent écouter notre conversation qui, je l'espère, vous fera voyager et vous donnera le sourire en ces temps de confinement. Très belle écoute! Du coup, la première question, et on va commencer par Caroline, et puis du coup, on va passer le micro comme ça. Est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu, Caroline? Et donc, te présenter en quelques mots. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui?
Suspense. Donc, moi, j'ai un blog de voyage qui s'appelle Le Monde dans ma valise, que j'ai commencé il y a environ 3 ans. Je suis à l'origine professeur des écoles. Et j'ai quitté donc mon travail pour partir voyager il y a plus de 7 ans. Et à l'époque, je vivais déjà aux États-Unis. J'étais expatriée aux États-Unis depuis 3 ans. Et aujourd'hui, attention,
suspense.
Donc aujourd'hui, depuis septembre, en tout cas, je suis revenue en France et je suis professeure de yoga. Pour résumer,
on va rentrer en détail.
Ces 10 dernières années.
Ouais, c'est ça, c'est compliqué.
Mais
on va rentrer en détail plus tard, bien sûr.
Voilà.
Bonjour à tous, je suis Hyojong et vous pouvez m'appeler juste Yo. Je viens de la Corée du Sud. J'ai développé l'application qui s'appelle NomadHer, N-O-M-A-D-H-E-R, pour encourager les femmes de voyager en solo le plus sécurisé. Donc on vient de sortir l'application il y a un mois, et on a préparé pendant 2 ans. Et c'est vraiment à la base de mon expérience de voyager dans 42 pays en solo.
Ah oui.
Donc je viens d'arriver du Maroc aujourd'hui, cet après-midi. Oh là là, c'était le pays mon préféré et je crois fortement she can travel anywhere.
Donc bonjour à toutes. Moi je m'appelle Abigail. Je crois que j'ai commencé à voyager il y a 2 ans ou quelque chose comme ça. Et en ce moment, je me suis lancée dans un tour de France déguisée en pastèque, entièrement en autostop, en me faisant héberger par les gens de différentes régions. Donc, en dépensant le moins d'argent possible et en se basant uniquement sur la solidarité entre les êtres humains. Tout ça, ça a pour but de distribuer du bonheur aux gens. Voilà. C'est très cuculapraline, mais j'y crois à fond. Et voilà, donner du bonheur aux gens, donner le sourire et aussi prouver que c'est possible quand on est une femme de voyager seule et de faire de l'autostop. Voilà un peu.
Magnifique.
Voilà.
Girl power.
Girl power.
Bonsoir à toutes et à tous. Donc moi je m'appelle Nastasia et pour faire simple aujourd'hui je suis rédactrice freelance. On va dire c'est ma première casquette, j'en ai plusieurs mais on va dire c'est la principale. J'ai également aussi un blog de voyage qui est une autre activité et à côté de ça comme mon activité freelance me le permet, j'ai libéré beaucoup de temps dans mon planning pour me donner à des activités que je n'avais pas pu faire depuis des années, qui sont la danse, la comédie musicale. Enfin, je teste pas mal de choses dans le domaine artistique. Donc voilà, c'est un petit peu en ce moment ce qui se passe dans ma vie. Je n'anticipe pas la question suivante, parce que mais genre, mais que faisais-tu avant?
Du coup, voilà, question suivante. Donc, qu'est-ce que tu faisais dans ta vie d'avant, je mets des guillemets, et est-ce que tu as eu un déclic? Ou comment s'est fait le déclic? Je sais que je t'ai déjà posé la question dans une interview qu'on a déjà eue toutes les deux, mais...
Tout à fait, voilà, je ferai quelques redites. Ça montrera à quel point je suis cohérente ou pas. Genre bellement. Donc avant de faire ça, c'est-à-dire il y a maintenant plus de 6 ans, parce que je suis partie voyager il y a 6 ans, j'étais en marketing. Donc pour faire rapidement le petit profil, études en fac de communication, puis école de commerce, puis bon petit soldat qui est parti travailler dans les grosses entreprises de la bouffe d'abord, voilà, chef de secteur, et puis en marketing, toujours dans la bouffe, qui pourrait croire jamais entrer. J'ai vendu des confitures, des compotes et des barres chocolatées.
C'est pas mal,
il y a pire. Non, mais je prenais des produits assez sympathiques quand même. Et jusqu'à ce que, après, j'ai bossé aussi dans le jouet, parce que c'était quand même le marketing de l'enfant était ce qui m'attirait. C'était le truc le plus fun que j'avais pu faire pour me rapprocher des choses un peu sympathiques. Et puis, au bout de 4 ans, c'est-à-dire pas longtemps, je me suis dit, waouh, ok, bah, j'avais le copain, l'appart, le CDI, la vie rangée. Voilà, et pour faire simple, je me suis réveillée un matin comme un autre et je me suis dit, waouh, ça va durer 40 ans, mais je vais grave me faire chier. Désolée, ça, tu mettras
c'est...
un bip.
Non, c'est très voilà. Bien.
De mon point de vue, encore une fois, pas de jugement de valeur s'il y en a qui sont heureux comme ça, mais je me suis dit que ça allait pas être mon cas. Et donc, ça a été le début, on va dire, d'un déclic parce qu'il a pas suffi juste de dire ça et de dire « Hey, salut, je me casse !» Donc, ça a été un processus lent de mettre fin à une relation, de déménager, de mettre fin à CDI et de partir.
T'as tout quitté, quoi, en même temps.
Et voilà, je fais partie de ces gens qui ont tout quitté, le CDI, et qui sont partis vivre dans un van en Australie, pour commencer.
Oui. Alors, du coup, qu'est-ce que je faisais avant? Moi, pareil, je me suis lancée dans les études. Donc, j'ai obtenu ma licence en finance à Descartes. Et entre-temps, j'ai bossé en tant que conseillère commerciale dans une banque. J'en pleure encore aujourd'hui. Et à peu près pareil, je me suis dit, mais mon Dieu, ça va être comme ça pendant 40 ans. mais je vais pas survivre, tout simplement, je vais pas survivre parce que moi, je suis une grosse hypersensible de la vie et je me suis mise à faire des crises d'angoisse folles, à me dire, mais mon Dieu, ça va pas, je sais pas quoi faire, j'arrive pas à m'adapter à la norme, en fait, tout simplement, à la norme de notre société. Et en fait, c'était limite une question de survie, quoi. En mode, c'est ma santé qui est en jeu. Et ouais, pareil, ça a été des gros déclics. Mais au final, ça s'est terminé par... j'ai pris un aller sans retour pour le Brésil. Puis ciao, quoi. Vas-y, je sais pas où je vais, je sais pas comment je vais, j'ai aucune idée, j'ai jamais fait ça. Enfin, franchement, entre nous, quand j'étais à l'aéroport, j'étais vraiment pas bien. J'étais vraiment en mode... T'es sûre que t'as fait la bonne décision? Non, j'en suis pas sûre, mais on verra.
C'était ton premier voyage solo?
C'était mon premier voyage
cache
solo.
Cache le Brésil, quoi.
Et ouais, direct, Brésil. Et puis pareil, après, j'ai enchaîné avec l'Amérique latine, avec un niveau d'espagnol proche du hola, ¿qué tal?
Pareil.
Et mieux. Et puis, ouais, au feeling. Hein.
J'ai travaillé chez UNESCO. Okay. Dans le domaine des médias et communications. Et après, je suis venue en France avec la bourse du gouvernement français.
Ah, donc UNESCO, c'était en Corée ou c'était...
UNESCO, c'était en Corée, mais pour l'Asie Pacifique.
Ok.
Oui. Et je suis venue ici pour étudier à Sciences Po Paris sur développement international et African Studies. Et j'ai écrit sur ma lettre motivation que je vais faire... en entrepreneuriat parce que ça, c'est mon motivation. Ça, c'est ce que je vais faire. Je ne sais pas sûr qu'est-ce que je vais faire, mais ça va être quelque chose concernant le voyage et l'autonomisation des femmes. Et voilà, ça, c'est ce que j'ai préparé pendant mon étude de master. Je viens de commencer nos matières.
Petite question juste pour toi, mais ça devait être... Comment est-ce que tu t'es dit, je vais faire ça en France? Parce que du coup, t'es arrivée quand en France?
Il y a 12 ans. Il y a 3 ans, presque 3 ans. Il y a 3 ans, oui.
Parce que tu parlais pas français, du coup, j'imagine.
J'ai fait la comédie musicale en français.
Ah, c'est génial parce que du coup, tu crées Nomad Heure. En France?
En France.
C'est absolument, enfin, je trouve ça et hyper impressionnant, quoi.
Oui, pourquoi la France? Parce que je pense que la France, vous êtes très attachés pour les valeurs de l'impact social. Et pour cette raison, j'ai choisi la France. Oui.
Ah, super. Et donc, tu es étudiante en même temps, c'est ça?
Je viens d'être diplômée.
Ah, félicitations. Oui. Toi, Caroline, t'en as un peu parlé, que t'étais prof.
Enfin, ouais, donc moi à l'origine, donc je n'ai pas fait de burn-out.
c'est bien.
Non, c'est un autre domaine de ma vie qui était touché forcément, parce qu'on a tous ces petites casseroles. Donc moi j'étais enseignante et à l'époque, bah, quand je suis partie, je vivais déjà un de mes rêves parce que je rêvais d'enseigner à l'étranger et j'enseignais à l'étranger. Et puis en fait, j'étais dans une vie qui me plaisait beaucoup à l'époque, puisque je gagnais très bien ma vie. J'avais un copain que j'aimais beaucoup, j'avais des amis que j'adorais, j'étais dans un milieu de vie que je trouvais génial. Donc, j'étais pas spécialement au départ, j'étais pas prédisposée en tout cas à partir, mais j'ai aussi tout quitté quand même. Et en fait, moi, mon déclencheur dans cette vie-là, donc, c'était pas ça la question, c'est qu'est-ce que je faisais ou c'était lui la déclencheur
Les deux. Donc, c'est très bien.
Donc, non, c'était. Le déclencheur, ça a été en fait une rupture. Hein. Donc, c'est la rupture qui m'a amenée à m'interroger sur la vie que je menais. Et je me suis rendu compte que je menais cette vie parce que j'avais aussi cette relation-là qui me plaisait beaucoup. Et j'étais venue aux États-Unis à l'époque pour retrouver mon copain qui vivait là-bas.
D'accord. Ouais.
Et puis, je me suis rendu compte que sans lui, cette vie-là ne me suffisait pas. Que j'allais surtout devoir passer mon temps à courir. Derrière la vie que j'avais pour essayer de retrouver en fait le sentiment que j'avais. Et en fait, je me suis sentie à ce moment-là extrêmement vide et je me suis rendu compte que mon travail ne me comblait plus. Et pourtant, moi, c'était un métier que j'avais choisi depuis que j'avais 13 ans. C'était un métier passion. J'adorais enseigner. J'avais une école, on va dire, tout ce qu'il y a de plus facile. J'avais 20 élèves dans ma classe. J'avais 3 fois mon salaire en France. Donc, donc voilà, c'était super.
Les conditions étaient. Ouais.
Non, mais après, il y avait aussi des choses négatives, mais avec le recul, là, je les vois beaucoup moins qu'à l'époque quand j'avais le nez dedans. Mais quoi qu'il en soit, à cette époque-là, ce qui s'est passé, c'est que je me forçais quand même à sourire pour aller travailler. Je trouvais plus ma passion, j'avais perdu cette passion. Et je me sentais vide, en fait. Donc, j'avais envie de me nourrir, j'avais envie de retrouver un intérêt, j'avais envie de m'occuper de moi, parce que c'est un métier où on donne beaucoup aux autres. Et j'avais envie de me donner à moi. Et du coup, j'ai été chercher à ce moment-là un rêve suffisamment grand pour surmonter ma rupture et m'élever. Enfin, je me sentais vraiment au fond de la piscine. C'est l'image que j'avais, c'est de pousser dans le fond et c'est d'aller trouver quelque chose qui m'animait suffisamment. Et puis, j'avais ce rêve de tour du monde que j'avais depuis que j'avais 17 ans. Donc moi, quand je suis partie en tour du monde, c'était en 2013 et j'avais 35 ans à l'époque. Donc ça fait déjà un petit moment. Et du coup, c'était une phase, enfin complètement un changement de vie, puisque à l'époque, j'ai fait mon gros sac à dos parce qu'il n'y avait pas tant de blocs de voyage, donc j'avais pas super d'infos. Et moi, mon idée, c'est que comme je partais des États-Unis, que j'allais tout laisser derrière, j'avais pris un sac le plus gros possible pour emmener plus de choses possibles.
Bah oui, évidemment, erreur de débutant.
Voilà, donc il faisait 80 litres, il m'arrivait là jusqu'au genou. Et j'avais une valise à roulettes à côté.
Pratique pour voyager, très pratique.
Pour voyager en tour du monde, que j'ai laissé tomber au bout de 6 mois parce que les bus d'Amérique du Sud avec la valise à roulettes, c'était pas possible. Enfin voilà, et donc du coup, je suis partie, j'ai pris la décision en janvier, je suis partie à la fin de l'année scolaire en juillet. Donc j'ai mis 6 mois pour mettre de l'argent de côté et je pensais que je partirais pour 1 an ou 6 mois. Et puis j'ai voyagé pendant 7 ans.
Ah ouais, donc, voilà. 7 ans. Ah ok. Voilà.
J'ai séché mes larmes.
Pas mal.
Voilà. J'ai pleuré pendant un mois environ, le tout premier mois de voyage.
Et après, t'as kiffé, quoi.
Un peu comme toi, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fais en fait? Qu'est-ce que tu fous là? T'as rien prévu, tu sais pas où tu vas, tu sais pas quoi faire tes journées. J'ai regardé L'amour est dans le pré.
J'étais au... faut ce qu'il faut, quoi.
J'étais au Canada. Ça me changeait pas beaucoup de ma vie habituelle, puisque c'était à la fois la France et les États-Unis, le deux en un. Je trouvais pas ça super exotique. Et voilà. Et puis après, au bout d'un mois, je suis partie au Brésil et là, c'est l'aventure a commencé.
Okay. Ouais. Ça enchaîne très bien sur ma prochaine question. Comment est-ce que le fait de voyager t'a aidé du coup à changer? Ouais, qu'est-ce que le voyage t'a aidé à changer dans ta vie?
Alors, à la fois, tout et rien, parce que bon, on dit souvent, le voyage te change complètement. Alors, moi, j'ai pas l'impression d'être devenue une autre personne. J'étais déjà, j'avais un mode de vie assez banal, hein, quand même. Mais en fait, ce que ça m'a permis, surtout ce que j'ai beaucoup ressenti, ça m'a permis, je suis quelqu'un qui me jugeait beaucoup, qui avait beaucoup, enfin j'ai toujours beaucoup d'attentes envers moi-même, mais je me suis autorisée, en tout cas je me suis efforcée de lâcher prise sur beaucoup de jugements que j'avais, beaucoup de jugements de valeur, sur des choses que je m'autorisais ou pas à faire, parce que c'était bien ou c'était pas bien, me laisser beaucoup plus porter, essayer de lâcher prise. Moi, mon seul leitmotiv, c'était de vivre au gré du vent. Donc, en fait, voilà, j'allais là où les rencontres me portaient, là où j'avais envie. J'avais envie de revoir, à l'époque, j'avais ma meilleure amie qui vivait en Argentine depuis 4 ans. Et moi, j'étais aux États-Unis, on ne s'était pas vu pendant 4 ans parce que le billet des États-Unis en Argentine, ça coûte juste une blinde. Et puis, à l'époque, j'avais que des vacances scolaires. Donc, voilà. Donc, ça coûte encore plus cher. Et donc, voilà, j'avais envie de voir, j'avais été revoir aussi au départ un ami que j'avais à Seattle qui était parti faire un scholarship au Brésil. Au départ, j'ai commencé comme ça, en fait, avec des gens que je connaissais.
Ah ouais, ouais.
Et puis, petit à petit, bah, en fait, tu commences à faire des rencontres. Et de rencontre en rencontre, bah, je suis partie et j'ai fait un parcours comme ça en Amérique du Sud. Et puis voilà, après je suis partie en Asie parce que j'avais dit à ma cousine qu'on se retrouverait à Bali en février, qui était un site aussi, donc vacances de février. Et du coup c'est comme ça que je suis partie après en Asie. Et puis et même quand je suis, parce que je suis quand même rentrée en France, hein, je suis pas partie 7 ans, je suis très proche de ma famille, de mes amis, mais voilà, même mon premier retour il s'est fait sentir au bout de 11 mois de voyage, où je commençais à je pense à me lasser un peu, parce qu'il y a quand même des moments de lassitude, parce qu'on recommence ses journées, on répète un peu les mêmes choses, on rencontre des nouvelles personnes, mais on rejoue exactement la même scène au final. Hein, donc, enfin, je m'en rends compte aujourd'hui, mais et je pense qu'à un moment donné, j'ai eu une forme de lassitude et quand j'ai ressenti cette lassitude, je me suis pas forcée en fait. Je me suis dit, bah, j'achète un billet pour la France et puis je rentre chez moi. Et puis quand je suis rentrée, très vite, j'ai eu envie de repartir au bout de 15 jours.
Donc, ah ouais.
Donc voilà. Donc après ça s'est enchaîné comme ça avec des allers-retours avec la France. Enfin, j'ai fait un an. Après je suis repartie 8 mois. Je suis repartie 8 mois. Et puis après pendant 2 ans, je suis repartie tous les 2-3 mois.
Du coup, voilà. Je vais vous poser une question que tout le monde se pose, je pense. Comment est-ce qu'on fait pour voyager 7 ans financièrement?
Alors comme je disais, je suis pas partie à 18 ans. Ouais. Donc j'avais une vie avant.
Ouais.
Je gagnais bien ma vie aussi. Donc ce qui se bah, moi, concrètement, comment moi je l'ai financé, après, chacun, moi je pense, peut trouver sa solution de financement parce que j'ai rencontré des tas de voyageurs hein, sur cette période et chacun a un projet de financement qui ait ou pas de l'argent, qui gagne ou pas sa vie correctement. Donc, j'ai rencontré même une fille qui m'a dit ah, moi j'ai tout plaqué, j'ai tout vendu et elle venait d'arriver en Équateur. Et je lui dis ah bon, bah, t'as mis combien de côté? 700 euros. Ah. Et ça m'a, je me suis dit, ah ouais, donc moi j'étais partie avec un pactole en fait.
Ah ouais.
Et donc, non, donc moi en fait j'ai économisé pendant 6 mois quand j'étais à Seattle, ce qui m'a permis de voyager un an et demi sans travailler. Et en fait après, au bout d'un an de voyage, j'ai réalisé que j'avais fini de payer mon prêt de mon appartement que j'avais acheté quand j'avais 18 ans. Et j'ai vendu mon appartement. Et j'ai tout claqué. Mon pré-retraite est parti en pré-retraite, c'est-à-dire j'ai pris quand même ce que j'appelle ma mini-retraite.
Ouais.
Et je l'ai pris quand j'avais envie de faire mes voyages et pas à l'âge où j'aurais peut-être plus envie de rien faire si ce n'est peindre, écrire et lire. Donc voilà.
Ouais.
Quoi. Et voilà, j'ai vécu ma retraite à l'âge où j'avais envie de la vivre.
Ok, voilà. Super.
Oui, je pense que voyager en solo, m'a enseigné que je suis très forte, très 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 forte, je pense, très indépendante et très courageuse. Mm. Et ça, c'est telle leçon qui m'a enseigné. Par exemple, je pense que voyager en solo, c'est presque pareil comme faire un entrepreneuriat. Parce que quand j'ai voulu créer l'application Nomatreur, j'avais les idées, mais je ne savais pas sûr, comment je dois le faire. Et c'est presque pareil, vous avez les idées, et après, vous allez trouver les gens qui vous aider. Et ça, c'est la même pour voyager en solo. Tu voyages en solo, mais je ne suis jamais tout seul.
Oui. Ouais. Et puis c'est en faisant qu'on apprend, en fait, et que l'idée se développe. C'est pareil pour l'entrepreneuriat, et puis c'est pareil pour le voyage. Mm-hmm. C'est en voyageant que tu comprends ta manière à toi de voyager. Mm-hmm. Je sais pas si ça te parle.
Oui, parce qu'en fait, faire un entrepreneuriat, c'est très dur. Mm. Mais en même temps, c'est incroyable. J'adore. Chaque jour, je me sens que je suis vivante. Depuis que j'ai commencé Nomatreur, j'ai jamais pensé que je ne veux pas travailler le lundi. Ah oui. Le lundi, c'était toujours rafraîchissant pour moi. J'aime pas le vendredi, en fait. non, c'est vrai.
Ah ouais.
Si c'est le vendredi, je pense que... Mais non, c'est déjà vendredi. Ah, c'est pas possible. Et je toujours pense à ce que je fais chaque semaine, chaque week-end. Et ça, c'est quelque chose que, en fait... qu'est-ce qu'on a voulu dire? Mais en tout cas, je pense que je me sens vraiment vivante. Et c'est un peu comme vous voyagez, oui. Parce que vous êtes tout le temps vivant quand vous voyagez, oui.
Et comment est-ce que tu arrives à gérer, du coup, entrepreneuriat et voyage en même temps? Parce que là, tu étais au Maroc.
Oui, et donc j'étais au Maroc, j'étais dans une ville qui s'appelle Tamarat. ça, c'était la meilleure expérience de ma vie.
Ah,
vraiment.
Ouais.
Les gens, ils sont très respectueux. Je suis partie parce que le Maroc et l'Inde, c'était les deux pays qui étaient le plus demandés pour l'application Nomatreur.
Ah.
Il y avait beaucoup de gens qui m'ont dit, est-ce que tu peux mettre Maroc? Parce que j'ai peur d'y aller tout seul à cause de quelques incidents. Et je suis allée à Tamarat. Ce que j'ai découvert, c'était plus sécurisé que Paris, évidemment.
Ah, ouais.
Les gens, ils sont très, très, très respectueux. Quand j'ai marché dans la rue de Paris, s'il y a des gens qui disent bonjour, j'étais un peu méfiante. Pourquoi ils veulent faire bonjour à moi? Mais au Maroc, les gens, ils disent bonjour et je réponds bonjour. Ah, where are you from? I'm from South Korea. Oh, nice. Do you like Morocco? Yes. Okay, have a safe trip. Ça y est, c'est fini.
Ouais.
Ils ne veulent pas vendre quelque chose, ils ne veulent pas d'avoir quelque chose. Et Nomatreur, on pense que the true travelers can make what travelers want. Seulement les voyageurs peuvent créer quelque chose, ce que les voyageurs veulent.
C'est mieux en anglais. Hein.
Oui. something like that. So only the travelers can make what travelers want. Donc toutes les équipes nous sont nomades.
D'accord, ok.
Oui, on travaille sur Slack,
ouais,
Skype.
Ouais.
Très
bien.
Oui.
Bah oui, ça fait sens, bien sûr.
Oui.
Est-ce que tu peux répéter la question de base?
Bien sûr. on a divagué. Comment est-ce que le fait de voyager a changé quelque chose en toi, que ce soit ta vision des choses, etc. Qu'est-ce qui a changé avec le voyage?
Pas grand chose.
bof.
Ok, donc c'est qu'est-ce que le voyage m'a apporté?
Mais c'est une très bonne question, ça. Et ben voilà, c'est ça cette question.
Ok. Je pense que quand vraiment j'ai débarqué au Brésil, je pense que vraiment au début, ma vie à Paris, je me sentais super sensible, super faible et super pas adaptée à tout ça. Et je pense que ce que le voyage t'apporte vraiment, c'est le fait que, ouais, je vais rejoindre ce que tu dis, que t'as une force insoupçonnée et finalement tu fais face à des situations que tu penserais jamais vivre de un et de deux, trouver des solutions. C'est-à-dire que des fois en voyage, tu te retrouves dans une
noire, oui,
dans une mouise pas possible où tu te dis mais comment je vais faire, j'ai raté mon avion, il n'y a pas de bus, je parle pas la langue, enfin vraiment des situations où tu penserais jamais vivre, et bizarrement tu trouves des solutions. Tu sais pas comment, tu sais pas pourquoi, mais tu trouveras toujours quelqu'un pour t'aider. Tu trouveras toujours quelqu'un pour essayer de se plier en quatre, pour essayer de te comprendre. Et au final, tu t'en sors, et tu t'en sors même plutôt bien, parce que généralement, la solution est même 100 fois meilleure que ce que t'avais prévu de base. Donc, je pense que c'est vraiment ça que ça t'apprend. C'est-à-dire que peu importe ce qui t'arrive dans la vie, il y a des solutions à tout. Et dans tous les cas, t'as toutes les capacités en toi. Et que on a beau dire ce qu'on veut sur l'espèce humaine, entre humains, on se laissera jamais vraiment. Enfin, très sincèrement, si demain tu vois un étranger complètement en détresse, moi personnellement, je vais aller l'aider. Il trouvera toujours quelqu'un. Enfin,
surtout si t'es seul, en fait.
Ouais.
C'est ça que le voyage seul est plutôt chouette. Quand t'es à deux, tu dis bon, il sera deux. Quand
ouais,
t'es seul,
c'est ça.
Vraiment, les gens viennent t'aider, quoi.
Mais même, enfin, il y a plein de gens qui s'imaginent que voyager c'est super dangereux. Enfin, ouais. que vraiment,
mais
t'es toute seule, tu fais de l'autostop, mais tu sais pas où tu vas dormir, etc. Et en même temps, t'as personne pour t'héberger. Comment tu vas faire pour trouver ça? Et pas une seule seconde, je me suis dit, j'ai vraiment peur. À aucun moment, je me suis dit ça. Je me suis toujours sentie super safe, en mode, dans tous les cas, je vais trouver une solution. Donc ouais, je pense que c'est ça que t'apprends à vivre la vie beaucoup plus sereinement en
lâcher
te disant
prise.
Ouais, voilà. En te disant peu importe ce qui arrive, dans tous les cas c'est bon.
Ouais. La vie va.
Donc ouais.
Ouais. Ça fait assez chargé, quoi. De...
C'est ça. Ouais. Enfin, je sais pas vous, mais moi, je crois à fond en l'univers, le destin, les étoiles, tout ça. Non, mais vraiment, je suis persuadée, on a tous notre bonne étoile quelque part qui te met la bonne personne sur ton chemin au moment où t'es le plus désespéré. Et bah, bizarrement, tu rencontres des gens extraordinaires et tu fais, mais mon Dieu, c'est des rencontres que j'aurais jamais pu faire avant.
Alors, je sais pas trop faire doublon à ce qui a déjà été dit, même s'il y a plein de choses avec lesquelles je suis d'accord, évidemment. Pour moi, je vois deux grands pans. Sachant que ça peut être grâce au voyage, mais ça peut être grâce à plein d'autres choses. On n'est pas obligé de partir à l'autre bout de la planète pour travailler sur soi, mais forcément, là, c'est le thème, donc voilà. je suis concernée aussi. Je vois deux grands pans. Le premier, pour moi, c'est vraiment. Le terme que j'ai en tête, c'est de se déconstruire. Enfin, moi, c'est ce que le voyage m'a permis. C'est pas anodin, personnellement, que je sois partie le plus loin que je pouvais partir. des fois,
Australie.
L'Australie. À la base, je voulais voyager avec quelqu'un parce que j'avais peur. Et en fait, rapidement, j'ai collé le gars dehors et j'ai voyagé toute seule aussi. Donc, je soutiens le voyage solo aussi, dans le sens où je trouve que c'est une des expériences les plus libératrices pour apprendre à savoir qui on est. C'est pas une obligation. Mais je trouve quand même, à un moment ou à un autre, c'est quand même bien d'y passer pour... apprendre qui vous êtes et en fait comment vous gérez tout seul, parce que au moins vous n'avez pas quelqu'un à qui vous référer pour comprendre qui vous êtes. Mais c'était pas du tout ça que je voulais dire déconstruction d'un point de vue réussite sociale. En fait, moi, je sais que je viens d'un milieu où, que je le veuille ou non, je suis hyper conditionnée. J'ai été conditionnée dans mes études, j'ai été conditionnée dans mon éducation, j'ai été conditionnée en tant que femme. Donc, il y a plein de références sur lesquelles je me suis dit, en fait, pour réussir, il faut tel type de job, il faut tel type de situation personnelle, professionnelle. Et le fait de partir très loin, j'allais dire, il y a un gros mot dans le milieu du voyage, c'est que ce soit une fuite. Aujourd'hui, je l'assume vraiment, je l'assumais pas du tout pendant les premières années, je le dis, ça a été une fuite, mais une fuite constructive dans le sens où en fait, ça vous permet de partir de vos influences familiales, sociétales, toute cette pression qui est très difficile en fait à défaire quand on est dedans, on est né dedans, on remet rarement en question ce qu'on a reçu comme éducation, et le fait de peut-être partir ailleurs, de moins être entouré de votre entourage, parfois d'être dans d'autres cultures, c'est pas une obligation, mais souvent aussi ça permet de prendre du recul, ça permet en fait de découvrir complètement des autres manières de vivre. Vous avez d'autres priorités, enfin personnellement, moi, ma première expérience a été donc de vivre dans un van en Australie. Après, finalement, ce qui devait être un break d'un an a duré 5 ans. dans d'autres types de pays. Et franchement, le truc dont je me rappelle de cette année-là, c'est que j'avais très peu de choses. J'ai jamais été très matérialiste, mais alors là, je pense qu'on a battu tous les records. Donc, ça m'a enseigné des notions de « Ah ouais, en fait, je peux être heureuse en ayant très peu de choses, parfois en gagnant pas très bien ma vie. » Parce que finalement, j'ai raboté les besoins et en fait, à partir du moment où j'ai de quoi bouffer, j'ai des potes, je sais que ça a l'air cliché, mais en fait, c'est vrai. Donc, ça vous permet de prendre tellement de recul quand vous revenez, même si après, le niveau de vie n'est pas le même selon où on habite. Mais... Donc voilà, pour moi, il y a vraiment une notion de déconstruction que je trouve hyper intéressante dans le voyage. De ce fait-là, d'être dans complètement un autre environnement qui vous permet un petit peu de casser certains paradigmes et certaines références que vous avez, que vous avez complètement intégrées sans vous en rendre compte, et que d'un coup tu dis « Ah ouais, en fait, mais ça, on s'en fout grave, en fait, de gagner ça. » Ou même des fois, de ne pas bosser pendant 6 mois, je vais passer pour je ne sais pas quoi. Moi, j'avais énormément la pression de prouver que je suis une bosseuse, etc. Puis à un moment, tu es là, mais en fait, ça te regarde si tu as mis des sous de côté pendant 6 mois et puis qu'après, pendant 4 mois, tu as envie de te faire plaisir. Et alors, c'est ta vie, en fait. Enfin, tu as le droit de te faire plaisir, tu vois. Et le deuxième gros pan, et là, je ferai court parce que ça se rapproche de ce que vous dites, c'est que... D'un point de vue personnel, je pense que voilà, c'est un apprentissage de fou en termes de confiance, de se retrouver, comme tu dis, dans des galères pas possibles et de se rendre compte qu'en fait, tu vas toujours trouver des solutions, relever les défis. Et en fait, bah, quand tu reviens, je trouve vraiment surtout les premières années de voyage. Après, des fois, on a tendance un petit peu à perdre cette fraîcheur, mais tu reviens, moi, ce que je dis, c'est que t'es invincible, quoi. Y a rien qui peut te, y a rien qui t'atteint. Tu reviens, les gens, ils sont là, et alors, au niveau boulot, c'est la merde et tout, puis t'es là, pfff. Si tu savais, on s'en tape tellement s'il y avait que ça. Donc oui, en termes de confiance, énorme. Et puis, je souligne ce que tu as dit par rapport à reprendre aussi confiance en l'espèce humaine. Parce que je suis d'accord, quand on est en voyage, surtout en tant que nana, on dit toujours tu vas finir dans un fossé quelque part. On me l'a clairement dit, mon premier voyage. Le risque zéro n'existe pas, mais j'ai vraiment repris confiance en l'espèce humaine quand je suis partie voyager. Parce que, en fait, l'entraide, elle est vraiment là. Donc voilà. Ça, c'est pour le moment l'armichette.
Magnifique. Magnifique. Voilà, merci. Je vais changer ma question. En fait, on va parler maintenant du retour. Parce que j'ai envie de parler de ça.
Parce que... On a vendu du rêve, là.
Alors, on va parler du moment sympa.
Parce que, voilà, parce que c'est un moment aussi qui est difficile. Parce que le voyage, c'est chouette, on est en voyage et tout. On se pose pas forcément la question de ce qu'on va faire en revenant. Et puis le retour, parfois, est assez brutal. Ouais. On se prend quand même des remarques de notre entourage, etc. Et on n'est pas forcément... Alors moi... Personnellement, je m'attendais vraiment à ce que le voyage m'ouvre les yeux sur ce que j'allais faire et que j'allais revenir et que j'allais dire « Oui, c'est exactement ça qu'il faut que je fasse. Et c'est bon, je sais !» Mais pas forcément. Et du coup, comment ça se passe quand tu reviens et que t'as changé ta vision des choses, t'as changé... Tu sais ce que tu veux plus, mais tu sais pas forcément ce que tu veux. Alors, je sais pas si tout le monde va pouvoir... répondre. C'était pas prévu au programme, mais
oui, j'allais dire parce que ouais.
Où je change.
Ah, tu changes, oui, t'es comme ça. Petits... Voilà. Ouais, bah sujet passionnant que le retour du voyage, tellement complexe, disons-le. Je sais pas par quoi, quel bout prendre. Bon, c'est vrai qu'on va pas se mentir. Le retour du premier long voyage, moi par exemple, mon premier long voyage c'était 15 mois, donc t'as le temps quand même de bien te, voilà, te mettre dans l'ambiance. Oui, c'est une période hyper complexe parce que tu reviens avec toutes tes grandes idées, ta nouvelle philosophie super open, et c'est vrai que tu te confrontes à... alors je vais dire la fameuse réalité, hein, le retour à la réalité, c'est une phrase que je déteste, et je donnerai une petite anecdote d'ailleurs qui répétera ce que j'avais dit dans le podcast avec toi, mais qui restera pour moi une de mes références. Donc oui, clairement, c'est un passage compliqué parce que vous allez vous reprendre toutes les pressions de vos familles, de vos proches. L'argent aussi, c'est quand même un des premiers trucs. Il faut que tu retrouves un boulot, va bien faire que tu payes ta vie, etc. Donc c'est vrai qu'il y a un peu tout qui te rattrape, et faut être honnête, ça peut être un peu très violent et très compliqué, etc. De manière très personnelle, j'ai eu l'énorme chance d'être accueillie par mes parents quand je suis rentrée. Et comme j'avais eu la bonne idée, sans le savoir, de leur faire passer 2 mois avec moi en Asie du Sud-Est avant de rentrer de mon premier long voyage, ils étaient complètement déphasés aussi. Donc j'ai eu l'énorme chance. Faites-le, c'est un conseil. Ouais. Du coup, quand je suis rentrée, voilà. Et en fait, quand je suis rentrée, j'étais là, je suis déphasée, j'ai envie de parler de mes trucs, mais tout le monde s'en fout et tout. Puis c'était là, ah ouais, mais nous, c'est pareil, tout le monde s'en tape alors qu'on est déphasé. Donc c'est quoi? Prends ton temps, ma fille, c'est cool. Reste là un an si tu veux. Donc franchement, faites-le.
Meilleur accueil.
Ben voilà, c'est ça. Donc bon, j'ai une cette énorme chance. Je sais que ça dépend le contexte aussi familial et etc. de chacun. Donc en tout cas, pour parler pour moi, j'ai cette énorme chance. Et donc j'ai pris 6 mois chez mes parents à me reposer, à machin. D'ailleurs, c'est un truc que souvent je recommande. J'ai pas mal de potes qui sont rentrés voyager ces dernières années. Clairement, on est tous largués. C'est-à-dire que moi, je pensais faire ça 1 an et puis revenir et repostuler en marketing et tout. J'ai refait mon CV, j'avais envie de mourir. Donc j'ai dit, je crois que c'est pas la bonne solution. Et en fait, j'ai attendu 6 mois pour me rendre compte que je n'aurais pas la réponse comme ça un matin en me réveillant. Et autant je conseille de se reposer au début si vous avez cette chance, un petit temps, parce que c'est quand même énorme de revenir et de se remettre dans un rythme, etc., et d'absorber tout ce que vous avez absorbé, c'est quand même un peu ouf. Puis au bout d'un moment, il faut passer à l'action, quoi que ce soit. Moi personnellement, je suis partie à Londres juste être serveuse comme ça, j'ai monté mon blog de voyage comme ça, finalement ça a été la bonne idée qui m'a ouvert toutes les portes pour après, je le savais pas juste à l'époque. Et parce que pourquoi Londres, parce que c'était une ville qui me plaisait et que je me suis dit bah ça sera le premier move, et ça a été le premier move de 5 ans après, où j'ai fini par devenir entrepreneuse, blogueuse, etc. Mais c'est des choses qui prennent du temps, donc c'est juste de commencer par quelque chose potentiellement qui te motive sans forcément avoir une vision à méga long terme, parce que ça se construira avec le temps, c'est ce que j'ai envie de dire. Voilà.
Mettre la main à la pâte.
Voilà, c'est ça. Mais se laisser le temps que l'envie revienne quand même. Si vous avez ce luxe, prenez-le. Parce que tout de suite réenchaîner en se disant il faut que j'ai une solution, il faut que j'ai un projet. Franchement, vous n'aurez pas l'énergie créative. Au début, l'énergie créative, elle vient quand on est dans une phase où on est bien, où on est reposé. Et pour l'alimenter, il faut avoir une phase un peu de vide. Donc voilà, c'est ce que je vous dirais.
Le retour en France. Moi, personnellement, je me souviens que j'étais au Chili. Et de base, je voulais pas rentrer en France. J'avais fait mes démarches, j'avais obtenu mon visa pour l'Australie pour un PVT. Et moi, mon idée de base, c'était faire un tour du monde, faire Santiago, Sydney, et c'était parti. Finalement, les choses ont fait que j'ai dû rentrer en France. Et alors là, dans mon lit, en train de pleurer.
Bah oui, c'était pas prévu en plus.
C'était pas prévu et tout, j'étais là, oh mon Dieu et tout. Et là, pour le coup, je vais rejoindre ce que tu dis. Je pense que c'est super important de temps en temps avoir des périodes creuses et des périodes de passage à vide, et de se laisser le temps d'être triste et d'être déprimé, parce que non, on n'est pas tous super heureux, super happy tout le temps. C'est pas parce que tu rentres de voyage que forcément t'es... ouais, c'est ça, Pampella, olé olé. Non, je suis désolée, tu rentres de voyage, t'es déphasé. Déjà, t'as un décalage horaire de fou, ok.
Et tu peux être fatigué.
Exactement.
Parce qu'on pense souvent que le voyage, c'est ça va, tu t'es reposé. Mais non, pas forcément.
Exactement. Et alors là, moi, personnellement, c'est de mes passages à vide que j'ai le plus appris. Et c'est de mes tristesses les plus profondes que j'ai le plus créées. Et c'est là où je me suis dit, bah tiens, j'ai bien envie de créer un podcast. Tiens, j'ai bien envie, d'écrire un livre. Tiens, j'ai bien envie de créer un blog. En fait, c'est de ces trucs, c'est de mes désespérances les plus extrêmes que j'ai vraiment, je me suis réveillée un côté. Je me suis dit, bah, j'y connais rien, j'en sais rien, mais je vais le faire. Je sais pas comment, mais puis on y va. Et aussi, il y avait un truc quand je suis rentrée en France. C'est que tout le monde me disait, donc t'essayes tant bien que mal d'expliquer à tes potes tout ce que t'as vécu, mais c'est impossible. Et là aussi, tout le monde m'avait dit, mais ça, en France, c'est impossible. Nous, en France, on n'est pas comme ça, truc-muche, etc. Et c'est là, d'ailleurs, où, pareil, est née l'idée du Tour de France.
En mode,
ouais. Tout le monde me disait, non, mais tout ce que t'as vécu en Amérique latine, c'est impossible en France. Tu fais, ok, d'accord, cap, chiche.
J'y vais.
Non mais vas-y. Non mais enfin, parce que ouais, j'ai l'impression que tout le monde était tellement dans son petit quotidien, dans ce truc en mode il faut forcément partir à l'autre bout du monde pour vivre des trucs de ouf, alors que non, je suis désolée, moi j'ai démarré avec ma pastèque. En plus, tout le monde m'avait dit mais ça marchera jamais, tu vas rester sur l'autoroute sous la pluie avec ta pastèque, y a personne qui va te prendre. Tu vas rentrer chez toi illico presto. Et ça aurait pu se passer d'ailleurs, et ça se trouve personne m'aurait pris et je serais restée là avec ma pastèque en mode bon bah j'ai tenté un tour de France, ça a foiré, mais au moins je suis sortie de mon lit et au moins je me suis déguisée en pastèque et j'ai osé me mettre sur le bord de la route et lever le pouce. Rien que ça, déjà je peux me féliciter de l'avoir fait, et je m'en fous, en fait on s'en fout de la finalité, franchement, que ça marche ou que ça marche pas, déjà tu peux être super fière de toi, voilà. Et franchement, le jugement des autres, ça aussi, franchement, si vous avez peur du regard des autres, vous vous déguisez en pastèque, tu te balades un
ou
après-midi,
autre fruit de votre choix,
je te jure, n'importe qui te juge, ça te passe complètement au-dessus, quoi. Tous les regards des gens qui te regardent de haut en bas en mode elle veut quoi elle, toi tu regardes, tu fais ouais, il veut quoi lui. Tu vois, enfin bref, genre,
mais justement parce que t'étais en pastèque, peut-être que ça t'a attiré les bonnes personnes.
Mais oui, mais moi je me suis dit les gens ils sont trop jaloux de mon style. Tu vois, Genre au bout d'un moment, tu te crées des trucs dans ta tête, tu te fais « Oh vas-y, j'ai trop la classe, ils sont jaloux et tout, enfin bref. » et aussi apprendre à rire de soi, ça c'est génial, parce que ouais, quand t'es un peu déprimée et tout, moi je me suis retrouvée en pastèque, mais je me suis tapée des fous rires avec moi-même. Je me suis dit « Mais ma vie, elle est tellement géniale c'est le plus gros kiff de toute ma vie !» et ouais, en vrai, on s'en fout de ce que pensent les gens, et si on est triste, bah ne pas avoir peur de le dire. Enfin, moi, je sais que quand ça va pas, et je dis bah là, ça va pas. Voilà. Et ouais, je pense que faut se laisser vraiment, quand on rentre de voyage, faut se laisser le temps. Enfin, faut se laisser son temps. Ouais, on est des êtres humains. Des fois, ça va, des fois, ça va pas, et c'est comme ça. Et c'est de nos tristesses que naît des projets et des trucs. Ou ouais, mais grave carrément. Ah, mais moi, je kiffe ma désespérance. Hein. C'est là où, quand je suis désespérée... Ah non, mais...
Petit bijou.
Franchement, go hein.
Je recommande à tout le monde.
C'est ça. Ça fait du bien. Donc, voilà.
Oui, je pense que mon cas, c'est un peu différent. Parce que je travaille en même temps en voyageant. Et je suis patron de mon entreprise. Oui, c'est vrai. Et je pense qu'il y a... plus en plus des gens qui travaillent en voyageant. Et je pense que ça, c'est plus efficace. Par exemple, mes équipes, on est partout, vraiment, partout. Et par exemple, les stagiaires, ils étaient de l'Australie. Laura, ah ouais. Elle est au Chili. Elle est partie en Argentine en ce moment. J'étais au Maroc en voyageant.
Génial.
Oui.
Vous êtes combien dans votre...
On était 4 et on est en train d'embaucher 2 personnes plus. Oui.
Énorme.
Je pense que ça, c'est quelque chose, comment on dit, la mode de 21st century. Ouais. Parce qu'on est, fatigué de travailler à partir de 9h jusqu'à 18h. Et je pense que ça, c'est plus, quelque chose de très bien pour l'entreprise aussi.
Oui, carrément.
Oui, carrément. Parce que je pense qu'il y a deux types de voyages. Ah. Le premier, ça va être quelque chose à... Oui, je reste chez Club Med avec l'hôtel de 5 étoiles. Okay.
Les vacances, du coup.
Oui, les vacances. Et l'autre type, c'est vraiment... tu pars tout le temps pour être inspiré. J'étais au Maroc pour vraiment faire un entretien avec les voyageurs solo. Par exemple, j'ai rencontré Elisabeth qui a 71 ans.
Ah ouais.
Elle voyage en solo. Et elle m'a dit que yo, je veux vraiment commencer mon site propre pour encourager les femmes qui ont plus 60 ans de voyager en solo.
Ça, c'est génial aussi.
Oui. Ouais. J'ai rencontré Eileen qui a 20 ans et voyage en solo pendant 6 semaines tout seul au Maroc. Donc vous voyez, et en même temps je suis partie parce que je crois vraiment fortement on a besoin plus de diversité. Ça veut dire qu'on a on doit montrer les femmes asiatiques, les femmes noires, les femmes avec les voix, les femmes qui sont pas seulement les minces avec six pack mais avec un peu de grand culot aussi pour voyager.
Ouais.
Et seulement les Instagram, ils toujours montrent la même type, les blondes, les blancs qui voyagent. Et ouais. Je pense qu'on a besoin vraiment plus de diversité. Et ça, c'est ce que nos matrices ont essayé de faire. Et le voyage, c'est toujours ce que me donne l'inspiration. Même Elisabeth, qui est 71 ans, elle peut voyager en solo.
Ouais, génial. Ouais. Toutes les femmes peuvent voyager solo.
Exactement.
Alors moi, du coup, mon premier retour, alors moi, je ne l'ai pas forcément vécu comme un moment dépressif, mais ni un moment de recherche, puisque moi, à la base, comme je vous disais, je ne suis pas partie pour un burn-out. Donc, c'est-à-dire que moi, en partant, le souci que j'avais, c'était déjà, je savais que je partais, réaliser un rêve. Je savais que je partais plus ou moins dans une quête de soi parce que j'avais déjà écrit un premier blog à l'origine qui s'appelait Lost and Found. Donc, mon objectif, c'était déjà de partir me retrouver. Et en fait, moi, ce que je m'étais rendu compte à travers ma rupture, ce qui avait émergé vraiment, c'est que je vivais beaucoup à travers les yeux de quelqu'un qui m'aimait. Et quand je me suis retrouvée seule, mon leitmotiv, c'était d'apprendre à vivre à travers mes propres yeux. Et de me sentir exister à travers mes propres yeux. Et le voyage, comme tu disais tout à l'heure, ça rend extrêmement vivant, comme on est quand on est dans de l'action au quotidien, de la nouveauté au quotidien, de l'instant présent. on se sent extrêmement vivant. Donc moi, ça m'a permis, et puis comme tu disais, toutes les qualités dont tu te rends compte que tu possèdes, la faculté de pouvoir s'adapter à toutes les situations. Moi aussi, quand on se rend compte qu'on est extrêmement adaptable, qu'on peut parler, qu'on peut s'exprimer dans n'importe quelle langue. D'ailleurs, moi, j'avais rencontré une Coréenne qui voyageait toute seule, qui avait 40 ans, plus de 40 ans, qui voyageait toute seule au Chili, qui parlait ni espagnol ni anglais, elle parlait que coréen. Non mais c'était extraordinaire, on s'est rencontré à un arrêt de bus parce qu'elle voulait changer son ticket, elle savait pas comment faire et je me suis rendu compte, on a échangé toutes les deux pendant 20 heures dans un bus, sachant qu'elle parlait pas ni un mot d'anglais ni rien d'autre que du coréen et moi évidemment je parlais pas coréen et je suis retournée la retrouver après en Corée alors que j'avais perdu toutes ses coordonnées, bref tout un périple juste avant de rentrer et, mais tout ça pour dire qu'en fait on a c'est vrai que ça donne vraiment l'opportunité d'aller se découvrir, se rendre compte de tout ce qu'on a. Et finalement, moi, quand je suis arrivée au moment du retour, j'avais déjà pris la décision de vendre mon appartement. Donc, je ne suis pas rentrée parce que j'avais plus d'argent.
Et plus d'appart.
Non, mais j'avais plus d'appart. Mais moi, je suis un peu comme Nastasia. J'ai la chance de m'entendre extrêmement bien avec ma famille. Je suis très proche de mes parents. Donc, je suis rentrée. J'étais hébergée chez mes parents. C'est tout à fait normal dans ma famille. Hein. C'est... donc, voilà. Et je peux rester, je peux rester aussi longtemps que je veux chez mes parents. Il n'y a pas de souci. Donc, ça a toujours été une terre d'accueil. Donc, je sais très bien que quand je rentre, j'ai un chez moi qui est ma chambre d'adolescente qui n'est pas... du coup, je perds mon autonomie et quand on est en voyage, Dieu sait qu'on a de l'autonomie, du temps et de la liberté et que là, à nouveau, on s'adapte au mode de vie familial. Bon, après, on passe aussi sa vie en voyage à vivre chez les autres, donc autant dire qu'on s'adapte tout le temps à vivre chez quelqu'un. Moi, le véritable retour aujourd'hui, ça vient aussi de cette envie d'avoir à nouveau une intimité et de vivre de façon autonome chez moi. Mais pour l'instant, je vis chez mes parents, donc voilà. Oui. Mais mon premier retour... évidemment j'ai ressenti très très vite hein, au bout de 15 jours l'envie de repartir mais c'était plus une envie de repartir dans le sens où je pense que j'étais revenue, j'avais vu mes parents, j'avais vu mes amis, tout le monde était content de se retrouver, puis après il y a une forme d'ennui qui revient parce que en soi moi je travaillais pas donc on n'avait rien à faire, je ne cherchais pas un travail puisque à la base je suis enseignante donc je peux reprendre mon travail à n'importe quel moment donc j'ai pas ce souci de chercher un emploi. Donc en fait, moi, mon retour, j'ai pas eu ces questionnements de qu'est-ce que je vais faire dans la vie. Moi, mon idée, c'était de retrouver l'envie d'enseigner, donc d'être capable de reprendre mon métier. Là, mon premier retour, j'ai eu qu'une envie, c'était de repartir voyager. J'avais juste envie, en fait, de me renourrir de mes proches, de les retrouver. Et puis pareil, je pense que j'avais à l'époque déjà assez de distance dans ma réflexion et dans cette quête de soi. Quand je suis rentrée, je me suis pas dit non plus, tiens, je vais aller raconter toute ma life pendant un an à mes copines, en fait. Tu vois, en rentrant, moi, j'avais des copines qui avaient des enfants, etc. J'avais pas tellement envie qu'elles me racontent toutes les étapes de leur gamin pendant un an. Ça m'intéressait pas du tout, quoi. Donc en fait, j'avais quand même cette conscience que au retour, ma priorité, c'était de vivre des moments avec les gens que j'aimais. Pas d'aller boire des cafés pour qu'on se raconte nos vies pendant des heures, en fait. Donc, quand je suis rentrée, je suis partie en week-end avec mes amis, je suis partie en vacances avec mes amis, j'ai passé du temps en famille, mais pas autour de dîner ou autour de café à faire l'état des lieux de ma prophétie et de mon voyage extraordinaire. J'avais écrit un blog. Les gens qui voulaient savoir ce que j'avais fait, ils pouvaient lire tout ce que je faisais sur mon blog. Ceux qui étaient intéressés me posaient des questions et dans ce cas-là, il y avait un échange parce qu'ils avaient déjà suivi ce que j'avais fait. Donc, il y avait un véritable échange et c'était pas un monologue. Parce que ça peut être aussi hyper pénible d'avoir quelqu'un en face qui te raconte pendant un an, tu vois, j'ai fait ça, j'ai vu ci, tu vois, moi j'ai monté le Mont Blanc, enfin le Mont Blanc même pas parce que tu vas faire des trucs, tu vas monter le Machu Picchu, ça n'a déjà pas la même gueule. Mais ce que je veux dire, c'est que derrière, il y a quand même un côté où il faut aussi. Moi j'avais conscience et je comprenais que tout à fait que les gens n'avaient pas envie de passer des après-midi à m'écouter, me raconter, en fait c'est hyper narcissique et j'attendais pas ça des gens, donc en fait j'ai pas eu de déception parce que j'ai jamais proposé aux gens de faire ce genre de choses. En revanche, une fois que j'ai revu tout le monde et que j'avais fini le tour, je me suis dit bon ok maintenant j'ai mes thunes, qu'est-ce que je fais en fait. Donc ce que je faisais, c'est que je faisais un petit tour de France et d'Europe parce que moi j'avais mes amis un peu partout, donc je restais un peu plus au plus proche. Et une fois que j'avais vu tout le monde, j'ai repris un billet, je suis repartie pour 8 mois. Et puis et en fait mes retours n'ont été que des retours décidés puisque quand je suis repartie pour 8 mois, je suis rentrée parce que mes copines m'ont dit « Ah, J'avais une de mes meilleures amies qui se mariait. On fait son enterrement de vie de jeune fille dans un mois.
Ouais, c'est une bonne excuse.
À l'époque, j'étais en Nouvelle-Calédonie. Je fais, les filles, vous pouvez peut-être me prévenir avant parce que là, le billet dans un mois, ça va être...
3 000 euros.
C'était un peu ça. Mais du coup, ça m'a donné l'occasion de retourner au Japon avant de rentrer parce que c'était moins cher. Et du coup, voilà, je suis rentrée pour faire... je voulais retrouver mes copines en Italie avant de rentrer en France. Donc, ça n'a jamais été vraiment des moments de dépression ou de... C'était plutôt des moments de joie de retrouver les autres. Mais en revanche, ça n'a jamais suffi à me donner envie de reprendre mon travail.
Et ton... Parce que là, du coup, t'es prof de yoga aujourd'hui. Donc, tu t'es formée récemment en Thaïlande, c'est ça, il me semble.
C'était au mois de juillet.
Et donc, aujourd'hui, t'enseignes en France. T'enseignes à Paris?
Oui, ça a été une longue décision. J'enseigne pas à Paris.
J'enseigne pas à Paris, ok.
Alors, j'ai hésité entre enseigner à Paris, parce que moi, à l'origine, je suis de Normandie. Donc, comme je t'ai dit, je suis rentrée chez mes parents. Donc, et j'ai hésité à être à Paris, parce que je pouvais aussi être hébergée ici. Parce que le souci, quand on n'a pas de revenus, c'est effectivement payer un loyer. Je veux dire, la contrainte aussi de... C'est super d'avoir mon boulot en réserve, mais je suis en disponibilité. Ça veut dire aussi que je n'ai aucune aide financière.
Ouais.
Donc moi, je n'ai jamais touché de chômage, de RSA ou de je ne sais quoi d'autre, que quand même beaucoup de voyageurs, on ne va pas se le cacher, il y en a beaucoup qui se vantent de voyager comme ça. Si tu veux, tu sais que tu peux compter que sur toi. Moi, mes proches, j'en ai tout à fait conscience. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est une chance que j'utilise. Et aujourd'hui, ça me permet de me donner les moyens d'essayer de mettre en place mon auto-entreprise. En revanche, depuis 3 ans, moi, j'avais tout à fait cette conscience que tu as dit, c'est-à-dire que j'avais cette soif de créer ma propre entreprise parce que je pense que je retrouvais les mêmes valeurs que dans le voyage, comme tu l'as dit avant. La liberté, le dépassement de soi, créer quelque chose, la création, ça rend extrêmement vivant et ça anime. Mais comme tu dis, on ne se lève pas un matin et tiens, qu'est-ce que j'ai envie de créer? Surtout, comme je te disais, moi, j'aimais aussi mon métier. Et je suis passée par tiens, je vais créer un blog et peut-être que je vais pouvoir vivre d'un blog. Alors, c'est possible, j'en connais plein de gens qui vivent d'un blog. En revanche, je ne vous cache pas que c'est énormément d'heures de travail derrière un ordinateur et que ce n'est pas ma tasse de thé de passer 70 heures derrière un ordinateur. Même en voyage, au bout du monde, encore moins. Justement, j'ai l'impression de perdre mon temps. Donc, ça a été très dur pour moi de nourrir un blog dans ce sens-là, et le seul moment où j'avais envie de remplir mon blog, c'était finalement quand j'étais rentrée chez moi, donc voilà. Et ensuite, après, le blog étant un peu... ça me plaisait de faire le blog, mais c'était pas une source de revenus. Donc j'avais toute une démarche de réflexion autour de qu'est-ce que j'aimerais faire, à part enseigner, puisque j'avais plus envie d'être enfermée dans une classe. Qu'est-ce que je pouvais faire qui me laissait la possibilité d'être nomade? Et qu'est-ce que je pouvais faire aussi qui me permette de gagner ma vie d'une façon correcte? Parce que moi, j'ai jamais eu non plus le désir d'être nomade à plein temps avec 500 balles par mois, en fait. Je me suis jamais menti sur... C'est pas que j'ai des gros besoins. En voyage, j'ai très peu de besoins. Je peux vivre avec très peu de choses. En revanche, quand je reviens ici, je veux pouvoir avoir une vie qui corresponde à mes désirs, à faire des choses, à sortir avec mes amis, avoir un niveau de vie qui me permet de faire tout ce que je fais aussi et pas me mettre en marge de la société. Et ça a un coût. Enfin, je veux dire, quand tu veux même sortir, voyager, partir en week-end, avoir en plus une location. Donc, si tu veux, dans tous mes calculs, moi, il fallait que je puisse vivre décemment ou sinon je reprenais mon travail d'enseignante. Enfin, c'est pas mon choix premier, mais j'y suis encore assez attachée pour avoir gardé cette option, en tout cas.
D'accord.
Voilà. Et le yoga est arrivé, comme tu disais tout à l'heure, moi je suis comme vous. Je crois vraiment que l'univers t'apporte tout ce dont tu as besoin au moment où tu en as besoin.
Ça a été la réponse, quoi, un peu à
tout ça. Je faisais du yoga depuis longtemps. J'enseignais, c'était déjà mon métier, donc je n'ai pas eu non plus à me poser la question si j'allais pouvoir transmettre et enseigner, puisque c'était quand même mes compétences de base. Et il y a 2 ans, quand j'étais en Inde, j'étais dans un cours avec un prof, un maître indien, qui m'a donné des cours, comme j'en ai pris plein, mais pendant lesquels j'ai eu une révélation et j'ai eu surtout envie de transmettre ce qu'il m'enseignait. Donc je me suis dit bah je vais chercher une formation, commencer à faire ma formation et puis après j'ai pas trop visualisé la suite en fait, c'est étape par étape. Une fois que j'ai terminé j'ai cherché la formation, ce qui m'a pris un an parce que je suis très je regarde tout, il fallait que tout soit parfait, que ça soit exactement comme j'avais envie, donc peser le pour et le contre, est-ce que je retournais en Inde, est-ce que je le faisais en France, est-ce que je le faisais en Asie, est-ce que voilà. Et je sais pas si je sais plus où on en était dans la question.
Non mais c'est bien. Et bien.
Mais voilà.
Mais je vais juste faire une parenthèse parce qu'effectivement toutes les deux vous avez pu retourner chez vos parents et c'est vrai que c'est une grande chance et faut le... toutes les trois pardon. Ouais. Et faut le faire. Après il y a d'autres solutions qu'on n'imagine pas forcément. C'est pas parce qu'on est en France qu'on est plus qu'on peut plus utiliser les solutions de voyage. Non. J'ai envie de dire donc le woofing. Garder des maisons avec des animaux et ça se fait beaucoup aussi en France et donc pourquoi pas aussi se dire bah en rentrant en France je vais faire ça pendant 2 mois et puis voilà ça me laissait le temps de reprendre un peu mes marques etc. Il y a toujours des solutions et effectivement c'est pas les parents ça reste quand même la simplicité. Donc on arrive sur la dernière question. Si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui est en train de voyager en ce moment ou qui revient de voyage. On va plutôt l'orienter comme ça, et qui a vraiment envie de changement, mais qui ne sait pas comment, par quoi commencer, en fait. Quel serait ce conseil ?
C'est aussi beaucoup relatif à chaque situation. Parce que, par exemple, moi, ce questionnement, il était là. J'ai pris le temps qu'il me fallait parce que j'avais aussi les moyens d'attendre, en fait. Je veux dire, ce qui m'a même amené à la passer à l'action, c'est finalement parce que j'arrivais aussi au bout de mes économies. Il ne faut pas se, voiler la face. Donc... Mais après, je pense que quand on est en voyage, en tout cas, bah, je pense qu'il faut quand même accepter les étapes. C'est-à-dire que il y a aujourd'hui, comme c'est devenu, enfin, c'est quand même devenu très commun de partir en voyage pendant un an. Enfin, même s'il n'y a pas la majorité des gens qui le font, il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui aujourd'hui, quand on voit sur les réseaux sociaux, type le groupe Facebook, je ne sais plus,
We Are Backpackers.
Bon, aujourd'hui, tous les deux jours, il y en a une qui met sa photo avec son sac à dos. Ça y est, c'est mon tour. Bon, ok, d'accord. Je veux dire, c'est bon, on décroche pas la lune non plus quand on achète un billet d'avion. Donc... Non, mais je trouve ça très bien. Mais je veux dire, c'est devenu très banal. Enfin, très banal. J'exagère peut-être un peu. Mais,
bon, bah, tout le monde le fait pas. Il y a plein de gens qui...
Et, non, tout le monde le fait pas. Mais j'ai l'impression que c'est devenu presque comme... tu sais, on est dans des sociétés où on n'a plus de rite de passage de l'âge enfant, adolescent à l'âge adulte. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui...
Le voyage, c'est ça.
Aujourd'hui, ça représente un petit peu ça. C'est un peu ce rite de passage où on prend son autonomie et on va essayer de s'aventurer, de se trouver et de prouver aussi qu'on est capable tout seul sans l'aide de personne. Et comme tu disais tout à l'heure, même moi, à l'âge que j'avais à l'époque, c'était le moyen de laisser toutes mes étiquettes de côté. Et je pense qu'il faut accepter que, ok, je veux vivre cette expérience, je vis cette expérience et je ne suis pas en train de penser à qu'est-ce que va être ma suite. Et je pense que en fait, justement, c'est aussi toute la contradiction de la société. À la fois, je veux vivre une césure, mais je suis déjà en train de penser comment je vais me rattraper après, parce que sinon, ça va être la grosse panique. Et je pense qu'il faut vivre les choses. Donc, quand tu es dans ton voyage, tu vis ton voyage. Et d'ailleurs, tu vois, pour moi, justement, trop planifier le voyage. Enfin, chacun fait comme il veut, et chacun a son caractère aussi. Mais pour moi, la contradiction de trop planifier un voyage, c'est presque de rester dans un mode de vie qu'on a en travaillant. Donc je me lève le matin, je vais faire ça, tout maîtriser, tout contrôler et finalement, on ne se laisse pas l'opportunité d'aller découvrir autre chose. Parce que quand on voyage comme ça, finalement, on a juste la même vie qu'en restant chez soi. Mais sauf qu'on voit d'autres choses. Mais en revanche, ça ne change pas l'état d'esprit puisqu'on est dans du contrôle permanent des choses. Donc moi, je pense que quand on part en voyage, on vit son voyage, on vit à fond. Et effectivement, peut-être anticiper un retour et qu'est-ce que je vais faire ensuite, mais sans se mettre une trop grosse pression. Ce que je vais faire ensuite, ça peut être comme dit Anastasia, bah, je prends le temps d'aller même, pourquoi pas faire un petit boulot, pourquoi pas faire de l'alimentaire, le temps de savoir ce que j'ai vraiment envie de faire. On n'est pas obligé de sauter d'un coup, si on n'a pas d'idée, de sauter d'un coup avec la grande idée. Justement, bah, faut accepter de laisser tomber. Bah, si je fais un break dans mes études, bah, ça veut dire que j'accepte. Enfin, faut être raccord avec soi, en fait. Donc, j'accepte de laisser ce statut qui va avec. J'accepte de laisser le statut qui va avec mon boulot. Et quand je reviens, bah, j'ai fait mon expérience et j'accepte aussi que je recommence là où j'en suis, quoi. Donc, que je peux faire un petit boulot, que ça va me prendre du temps de remettre des choses en place, qu'il y a un temps aussi de maturation pour savoir qui je suis aujourd'hui et qu'est-ce que cette nouvelle personne a envie de faire. Ça peut être aussi en ne faisant rien si on a le luxe d'être chez ses parents. Mais ouais. Ça peut être aussi en faisant quelque chose si on doit, à un moment donné, payer son loyer. Et je pense qu'il faut surtout ne pas se mettre une trop grosse pression.
Ouais, d'accord.
Je pense qu'il y a beaucoup de pression. Et parce que quand on revient, on a à nouveau la pression de l'entourage.
Bien sûr.
Qu'on avait laissé en voyage. Et je pense que ça, c'est aussi une contradiction qui n'est pas facile à gérer.
Je voulais dire que the world is yours. Et votre pays, c'est le monde, vraiment.
Ah oui.
Parce que je pense que parfois, les gens, ils sont trop stressés. Ok, quand je rentre, ok, je dois trouver ça. Oui, ça, c'est mon pays. Non, en fait, ouais. On est dans le monde où vous pouvez travailler où vous voulez.
Exactement.
Et vous pouvez habiter où vous voulez. Parce qu'il y a beaucoup de Nomad Hearts qui m'approchent pour d'avoir les conseils. Par exemple, Camilia, elle est à Cuba en ce moment. Elle m'a contacté, yo, je veux retourner à Cuba, mais je sais pas comment je vais toucher l'argent là-bas. Il y avait Sunny, qui fait un tour de monde en ce moment. Elle est à Brésil. Elle est au Brésil. Elle m'a aussi posé la question, yo, mais quand je retourne en Corée du Sud, comment je vais toucher l'argent? Qu'est-ce que je dois faire? Et ma réponse était la même. Vous êtes une femme très forte, indépendante, courageuse. Il y a toujours la solution. Vraiment. Il y a toujours. Parfois, si on est trop stressé, on ne peut pas trouver la solution. Mais parfois, juste en coup de... Comment on dit just suddenly, en soudain, vous allez d'avoir les idées. Et oui. Donc, je pense que ne soyez pas très stressé.
On n'est pas obligé de revenir, en fait, c'est ça.
Pas de... without planning can be the better planning sometimes.
Oh, wow. So much better in English, right?
So much better in English.
Maybe we're going to switch in English.
Alors du coup, le conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut voyager ou qui est en train de voyager ou qui revient de voyage...
Voilà, fais ta question.
Je redisais le truc à ma sauce, vas-y. Mais ça peut être un conseil, je vous l'accorde, qui peut paraître super perché, mais moi j'y crois à 200%, c'est que dans tous les cas, ce que tu le vis pour une raison, que ce soit le bien ou le mal, que ce soit les passages à vide ou que ce soit les passages où t'es super épanouie, super enrichie et tout, et que dans tous les cas, je pense qu'il faut vraiment avoir confiance en la vie et en l'avenir, entre guillemets.
En l'univers.
Ouais, voilà. Genre, je pense que... Aie confiance. Voilà. Fais les choses au feeling, aie confiance, et peu importe ce qui se passe, c'est OK.
Magnifique.
Bon, ça tombe bien, parce que j'avais un peu une réponse aussi comme ça, donc je n'aurais pas besoin de le dire, mais j'adore. Non, parce que, alors, pour le coup, en fait, je trouve que c'est la meilleure réponse, mais je peux comprendre que quand on n'en a pas vécu, par contre, c'est une réponse qui est un peu frustrante, par contre. Dans le sens où c'est facile, quand on l'a vécu, de le dire. Non. Mais quand on est juste avant, on se dit, vous êtes mignonnes, les filles, mais franchement, là, je suis en train de... Et voilà, donc pour avoir eu cette période-là aussi, mon premier grand voyage au bout des 15 mois, juste avant de revenir en France, donc j'étais vraiment liquéfiée à l'idée de revenir en France et de revenir dans le moule, ce que du coup je n'ai pas fait, puisque en revenant j'ai fini par mener d'autres projets qui m'amènent aujourd'hui à être freelance et à être à mon compte et à gérer mon temps comme je veux, donc j'ai réussi à me recréer en fait un rythme qui me convient, mais en rentrant, je savais pas que c'était possible. Je pensais que la seule option, c'était soit de reprendre mon activité en marketing, ou alors en attendant justement d'avoir une réponse, faire un job alimentaire. Donc j'ai pris cette deuxième option malgré toute la pression sociale du « mais t'as fait un bac plus 5 et tu vas finir serveuse, pauvre de toi ». Donc j'ai eu droit à ça, mais en fait je regrette pas, parce que des fois ça peut aussi permettre de prendre le temps et de s'enlever certaines charges mentales, puisque le financier, qu'on le veuille ou non, ça vous rattrapera. Mais des fois en fait, juste d'avoir un truc alimentaire et de réfléchir à côté, vous avez le droit. Enfin, je sais que voilà, selon les, on va dire, les formations de chacun, c'est pas une évidence, mais c'est une possibilité. Et je voudrais en fait juste donner cette anecdote. Avant de rentrer, un de mes derniers pays, c'était le Laos, et j'avais rencontré un Colombien. Et je me rappelle lui dire, je l'ai dit dans le podcast, mais je le répète, parce que je trouve que ça reste quand même un bon fer de lance pour moi encore aujourd'hui. Je me rappelle, je le revois lui dire, je suis vraiment flippée à l'idée de rentrer, je veux pas revenir à la réalité. En fait, il y avait ce côté, j'ai l'impression que tout ça, ça aura servi à rien. Et il m'a répondu de manière très, très stoïque, mais quelle réalité?
What is reality?
What reality? tu vois. Et en fait, ça paraît con, hein, ça fait un peu genre la phrase à la con à la fin, mais en fait, je garde ça en tête parce que, qu'on le veuille ou non, bon, il y a une certaine fraîcheur quand on voyage. Clairement, il y a des choses, quand vous allez revenir, qui vont vous rattraper, c'est une réalité. Par contre, il n'empêche que dans ce cadre, avec certaines contraintes, qu'elles soient financières, etc., j'ai presque envie de dire, à part le financier, finalement, il n'y en a pas tant que ça, le reste, ça vous appartient. Donc, il faudra certainement aller à l'encontre des idées reçues, de ce que vos parents attendent de vous, ou vos potes, ou ce que la société a dit qu'il fallait faire, et que si vous ne faites pas ça, vous êtes un raté. Mais en fait, ça, ça vous appartient. De le combattre ou pas, entre guillemets. Enfin, je veux pas faire genre, ouais! Mais parce que c'est vraiment difficile. Moi, je suis quelqu'un qui suis très, très sensible au regard des autres et je vous jure que je vous dis ça, ça semble évident, mais pour moi, c'est encore un combat. 6 ans après être partie, encore aujourd'hui, je suis en train de me lancer dans une période de ma vie dans l'art. Enfin, je veux dire, j'ai envie de faire ça depuis que j'ai 2 ans, j'en ai 32 et je commence seulement maintenant. Donc, c'est pour vous dire que c'est un cheminement. Je rejoins ce que tu disais, Caro, quand tu dis accepter qu'il y ait des étapes. Mais en tout cas, par contre, le côté c'est votre réalité, je pense que ça, je le garderai toujours dans ma tête. C'est que n'importe quel choix vous appartient, quoi qu'on vous renvoie. Et voilà, d'accepter de construire petit à petit, étape par étape, vous faire confiance et puis pas perdre de vue ce qui vous motive vous vraiment, parce qu'au final votre vie elle vous appartient et c'est pas, vous avez pas de compte à rendre aux autres, donc voilà.
Merci beaucoup toutes les quatre et merci à vous toutes et tous. Oui. Merci d'avoir écouté cet épisode de De Vraie Vie, j'espère qu'il vous aura grandement inspiré et aidé dans votre propre processus. Si vous avez aimé l'épisode, laissez-moi un commentaire sur iTunes et abonnez-vous pour ne pas louper les prochains. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, principalement Instagram, @devraievie, mais aussi Twitter ou Facebook. À très vite !